matin, on va parler épanouissement. Et moi, ça, ça me va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, la matinale des antennes de Principe Actif et d'HDR. Ce matin, je vous le disais, on va parler épanouissement avec des spécialistes de l'épanouissement. J'ai mon invité en face qui dit « Oh là, bah, comment il y va fort ?» Mais si, on va y aller fort comme ça durant l'heure devant nous. L'épanouissement, c'est l'association APER que nous avons avec nous. Et cette association n'est pas de... n'est pas moins que, et je vais chercher l'appellation officielle, une association, et ben ça y est, je l'avais sous les yeux il n'y a pas très bien longtemps, mais en tout cas qui va bosser sur l'éducation, la réadaptation, l'accompagnement, l'épanouissement et l'éducation et la réussite. Rien que ça sur le fronton de cette association, on aura l'occasion d'en parler avec Anne Guton qui est directrice générale. Mais ça, on y reviendra dans un instant. Autour des micro, nous devrions retrouver l'ami So pour sa chronique. C'est notre ami du futur et du présent, Antoine, que nous retrouverons également avec nous. Vous l'aurez compris, du bon son, de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Bah, en fait, c'est juste la recette du pire reste à venir. On pourrait dire c'est une recette, comme on fait dans les vieux chaudrons, ancestrale.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin. Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et je vous le disais, nous sommes avec l'association APER et c'est Anne Guton, directrice générale de cette association, qui est avec nous. Bonjour Anne, comment ça va déjà? Commençons par ça.
Bonjour, écoutez, ça va pas mal.
Bon, bah, c'est plutôt bien pour attaquer la matinale et la matinée aussi d'ailleurs. En quelques mots, l'association APER, qu'est-ce que cette association? Et puis, qu'est-ce que sont... j'ai envie de dire, en les nommant juste, on ira dans le détail un petit peu plus tard, ces champs d'action.
L'association APER, donc l'association, c'est accompagner les personnes à l'épanouissement, l'éducation et la réussite.
Ah, je les avais dans le désordre.
Vous les aviez dans le désordre, effectivement. Du coup, c'est une association qui gère des établissements pour personnes en situation de handicap. Donc nous, on est plutôt sur le handicap mental, avec déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés, autisme, handicap psy, etc. On est moins sur le versant handicap physique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On a quand même un établissement qui est un établissement pour enfants polyhandicapés. Donc là, on a aussi du polyhandicap, donc aussi du handicap physique. L'association, elle a été montée en 1963, donc c'est pas d'hier, donc ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le territoire de Tilly, donc Tilly qui est juste à côté de Vernon. Et donc on accueille des personnes en situation de handicap mental de 0 à... pas 99 ans, mais presque.
Et c'est ça, il n'y a pas de limite d'âge, en tout cas, sur l'accueil officiellement.
Non.
La limite, c'est le dernier... le dernier usager accompagné, quoi.
Voilà, exactement. Donc, on a trois secteurs d'intervention. On intervient, donc, on a un secteur enfance, où on est sur du 0-20 ans. On a un secteur adulte hébergement, donc c'est tout ce qui est foyer, hébergement, accueil de jour pour des personnes plutôt qui ne peuvent pas travailler, avec ou sans médicalisation, puisqu'on a un EAS, donc établissement d'accueil médicalisé, foyer de vie, foyer d'hébergement, accueil de jour, quoi, voilà. Et on a un secteur travail avec un ESAT qui accueille près de 80 travailleurs qui œuvre dans quatre grandes filières, les espaces verts, le tout ce qui est blanchisserie, repasserie, retoucherie, textile en fait, la restauration, puisqu'on a un côté restauration, et tout ce qui est sous-traitance, tout sous-traitance industrielle. Donc voilà, on a des clients pour qui on va faire de la sous-traitance.
Sur du conditionnement, des choses comme ça, par exemple.
Voilà.
Je prends en parallèle, on n'a pas très loin, sur Évreux, à Saint-Sébastien de Morsan, la page, un ESAT également, qui a les mêmes secteurs d'activité également.
Et effectivement, les ESAT sont souvent sur ces secteurs-là. On essaie de diversifier nos activités justement pour permettre aux personnes de découvrir d'autres métiers. Historiquement, les ESAT, c'était conditionnement et espace vert. C'était souvent ça. Aujourd'hui, voilà, on voit arriver d'autres choses avec, je vous dis, la restauration, beaucoup. Le textile, pas tout, mais il y en a pas mal qui ont aussi des blanchisseries qui partent vers le textile. Et on essaie de trouver des activités un petit peu pour permettre aux personnes de découvrir d'autres métiers et de pouvoir faire le choix, avoir un choix.
Eh bien, le cadre est planté. On a profité d'un événement que vous organisez quand même pour vous recevoir. On s'était dit, j'ai envie de dire, le fonctionnement de l'association de manière générale mériterait largement des émissions. Mais on s'est dit, on va choisir en plus une opportunité plus particulière. C'est le festival Castel Art qui va se dérouler le 3 juillet. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un très, très beau terrain d'expérimentation pour les personnes que vous accompagnez. Et puis sûrement quelque chose d'important dans la vie de l'association aussi.
Tout à fait. Ça va être la 4e édition là.
5e, moi j'ai sur mes papiers. Il y en a qui ont triché.
Ouais, je crois. peut-être. Pour moi, c'est la 4e, mais d'accord. Parce que peut-être je compte pas la première. Et la première, elle était un peu spéciale.
Ouais,
c'était sortie de Covid, où on avait fait venir des artistes. Pour donner un peu une bulle d'air aussi, parce que le Covid a été un peu compliqué dans nos établissements, comme partout d'ailleurs. Et on avait fait venir des artistes. Bon, on a la chance d'avoir un parc de 15 hectares. Et du coup, en fait, la majorité de nos établissements sont sur ce parc. Et en fait, on avait fait venir des artistes, on les avait mis sur l'ensemble du parc et les personnes se promenaient et tombaient soit sur un clown, soit sur un musicien, soit sur... C'était vraiment très...
C'est chouette ça.
Ouais. C'est comme ça que c'est commencé.
C'est peut-être ça alors la première édition fantôme.
Voilà, savez, peut-être, c'est ça.
Bon, on dit 4, 5, ça dépend.
Mais voilà, exactement.
Je vous propose qu'on parte en musique pour attaquer avec quelque chose qu'on s'est pris dans les oreilles en live sur le festival Ça sonne à la porte. Sam Greenfield avec le morceau Kids Bop. We'll be right back. Ouais, c'est ça, bah, c'était de rigueur, c'est Sam Greenfield qui était en featuring avec Alfonso Horn, des morceaux qui groovent et qui nous emmènent.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le bien reste à venir.
Le bien reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principati.
Et nous sommes toujours avec Anne Guton de l'association APER. Je vous avais dit qu'on allait parler épanouissement, parce que ça nous parle, nous, quand on parle d'épanouissement, tout de suite, on est au rendez-vous, nous aussi. Anne, on a parlé de l'association APER qui reçoit des personnes en situation de handicap. Alors, on va redéfinir deux secondes un petit peu ces notions de handicap, parce que vous nous disiez, ce n'est pas du handicap physique, en tout cas, c'est pas l'objet de l'accompagnement, mais quand on parle de handicap, il y a différents types de handicap, ce qu'on pourrait appeler mentaux, psychologiques ou... ça y est, j'en perds mes mots ce matin. Cognitif aussi, il y a des... Voilà, c'est ça que je cherche. Décidément, ça galère un peu là. Mais bon, non, cognitif ou autre. De quoi parle-t-on concrètement et quelles sont un peu la façon d'aborder ces questions de handicap chez APER?
Alors, à l'association APER, on aborde le handicap. En fait, les personnes sont une personne.
Oui.
Voilà. Donc, avec plus ou moins de capacités. Et en fait, des personnes en situation de handicap, notamment sur du handicap mental et notamment sur de la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle, en fait, ce sont des personnes qui vont avoir qui vont penser comme des enfants dans des corps d'adultes, par exemple. Voilà, ça peut être un exemple. Et du coup, mais ça reste des personnes. Et en fait, tout le monde a des capacités. Et nous, on essaie de travailler sur les capacités de chacun pour pouvoir les faire avancer avec leurs propres capacités.
Quand on parle d'avancer, c'est avancer dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, voilà. C'est avancer avec sa famille aussi, parce que parfois, pour la famille, c'est pas toujours évident d'accompagner leurs enfants, généralement, c'est plutôt les enfants qui sont accompagnés par les parents.
Oui. Ils restent enfants longtemps. Il y a des familles qui accompagnent aussi longtemps, même quand ils deviennent adultes, en fait. Hein.
Oui, mais est-ce qu'il y a besoin aussi parfois d'aider les familles à appréhender ces situations particulières? Est-ce que l'association APER se positionne aussi sur ces questions-là?
Tout à fait. L'association, on travaille en... C'est un trinôme, quoi. Moi aussi, je perds mes mots.
Vous dessinez un triangle avec vos doigts.
Oui, un triangle. C'est un triangle, en fait. La personne est au centre et, en fait, il y a la famille, il y a les professionnels et il y a la personne. Et c'est ensemble qu'on peut travailler avec la personne. Alors, nous, on essaie de travailler beaucoup avec et jamais sans. C'est-à-dire que même une personne qui ne parle pas, en fait, elle sera toujours présente avec nous parce qu'elle peut entendre ce qu'on dit. Et effectivement, parfois, elle peut aussi réagir par des mimiques, des choses. Mais voilà, la personne est toujours au centre de notre accompagnement et c'est vraiment pour elle et avec sa famille qu'on travaille pour la faire avancer vers dans son parcours de vie.
L'autodétermination fait partie des valeurs que vous portez au sein d'APER, ce qui est essentiel, en fait, c'est même central comme notion. C'est-à-dire que même en portant un handicap mental, psychique ou cognitif, on peut quand même être décideur ou en tout cas co-décideur de sa vie.
De son parcours, effectivement.
De son parcours.
Et le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir donner un maximum de choix. En fait, c'est donner le choix aux personnes et aux familles, en fait, de pouvoir avoir, parce que il y a des gens qui préfèrent le collectif, d'autres le grand collectif, d'autres le petit collectif, d'autres qui préfèrent vivre à la campagne, d'autres qui préfèrent vivre à la ville, d'autres qui préfèrent je sais pas quoi. Et en fait, nous, on est vraiment tourné vers la possibilité de donner le choix aux personnes. Avant, c'est vrai qu'historiquement, les établissements, en fait, les parents n'avaient même pas de choix, quoi. Je veux dire, voilà, il y avait une place, on pouvait mettre l'enfant là, mais on choisissait pas de... C'était à la semaine, ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire que le gamin, il était là du lundi au vendredi, point. C'était aujourd'hui, en fait, on est dans de la modulation d'accueil, ils peuvent mettre une nuit s'ils ont besoin, deux nuits, ça peut être le week-end, ça peut être les vacances, ça peut être... Le but du jeu, c'est vraiment de donner le choix. On parlait de choix tout à l'heure sur le travail, mais en fait, c'est le choix... du début jusqu'à la fin de quoi, voilà, le parcours de vie, en fait, sur le pas, comme nous, hein. Nous, on veut avoir le choix et de temps en temps on veut aussi pouvoir faire des essais, aussi se tromper. L'autodétermination, c'est aussi ça, c'est en fait leur donner le choix et leur permettre aussi de se tromper, de faire un aller-retour. Ça, c'est très important aussi, de pouvoir revenir en arrière.
Il y a un proverbe Shadok que j'aime beaucoup qui disait c'est en essayant continuellement qu'on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus ça a chance de fonctionner.
On est bien d'accord.
Et ça, j'aime bien comme petit proverbe. Ils étaient forts, ces Shadok. J'imagine que les méthodes évoluent aussi, on le disait, à Pair depuis 1963, donc c'est pas d'hier. On a avancé, j'imagine, dans la façon d'appréhender le handicap de manière générale, le handicap mental d'autant plus. J'imagine et j'ose espérer qu'on continue d'avancer d'ailleurs sur la façon d'appréhender les publics particuliers. Ça, c'est quelque chose que vous observez aussi, cette évolution de prise en compte d'une de l'individu, mais aussi des parcours.
Ah oui, complètement. C'est vrai que le secteur médico-social, moi je trouve qu'il s'est transformé là sur ces 10 dernières années, ça a été énorme. En fait, avant on était dans la surprotection, on protégeait en fait. On fallait protéger les personnes, ce qui était aussi entendable.
Ça
s'entend complètement. Aujourd'hui, en fait, on protège toujours les personnes.
Maintenant, on les met en danger.
Voilà. Non, évidemment, on les protège toujours, mais en fait on leur donne la possibilité, comme je vous dis, de faire des choix, de faire des expériences. Donc on s'ouvre complètement, on s'ouvre sur la société, on s'ouvre sur l'extérieur. Alors il y a aussi le regard des personnes qui change, ça fait partie de notre travail aussi, quoi. C'est-à-dire que de faire comprendre aux personnes que même si on est en situation de handicap, je le disais tout à l'heure, on a des capacités. Alors effectivement, elles sont peut-être moindres par rapport à d'autres et c'est pas les mêmes, mais on peut faire des choses et il faut pouvoir les mettre en œuvre dans la vie courante et dans la société. En fait, c'est vraiment pouvoir vivre comme monsieur, madame, tout le monde. J'aime bien cette expression parce que, il faut qu'ils puissent vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Avoir un logement, avoir un travail, pouvoir aller faire ses courses, quoi. Et en fait, nous, on essaie de les amener vers ça. Alors, on y arrive plus ou moins, mais on essaie de les amener vers ça.
Je vais refaire une autre citation d'une personne qu'on avait rencontrée sur une émission qui traitait de handicap, qui nous avait dit « On est différent comme tout le monde ». Et ça, j'avais beaucoup aimé aussi cette notion d'être différent, finalement, comme tout le monde.
Exactement,
quoi.
Tout à fait.
Et sur ces parcours, sur ces accompagnements, j'imagine qu'ils sont individualisés et il n'y a pas, même s'il y a du collectif dans les pratiques d'action ou d'activité ou d'apprentissage, il y a quand même des projets individualisés.
Tout le monde a un projet individualisé. Ils ont tous un projet. Parce qu'effectivement, on n'a pas. On parle de parcours aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de parcours et les parcours sont différents pour chacun. Personne n'a le même parcours qu'un autre. En fait, on a tous nos parcours et donc on travaille individuellement, même si on est dans du collectif ou du petit collectif, individuellement avec chaque personne.
Quand on parle de parcours, justement, là je suis sur votre site qui nous a permis de préparer un petit peu cette émission tout de même. Et dans les parcours, il y a le parcours d'hébergement autonomie, parce qu'il y a le parcours enfance, adolescence, là on voit bien, on est sur des notions éducatives, des notions de vivre en collectif et de s'adapter à un monde autour de soi. Le parcours socio-professionnel, on voit bien, c'est apprendre un métier, vous l'évoquiez à travers la blanchisserie, à travers le textile, à travers la cuisine, la restauration, les espaces verts et le conditionnement. Ça on voit bien. Mais le parcours hébergement, autonomie, il y a quelque chose un petit peu de maintenant, faut partir. Enfin, alors, c'est peut-être pas aussi direct que ça, mais il y a quand même cette notion-là.
Ouais.
C'est vol de tes propres ailes.
Exactement, mais on est vraiment là-dedans. On est dans un parcours pour les amener vers une autonomie jusqu'à ce qu'ils peuvent, en fait, parce que effectivement
au maximum de leur autonomie.
Donc il y a des personnes qui vont pas pouvoir aller plus loin qu'un foyer collectif et il y a des personnes qui vont pouvoir aller jusqu'à avoir leur propre appartement. Et donc du coup l'hébergement c'est aussi très important. Vous savez, il y a quelque chose moi d'un adulte qui m'avait dit il était allé dans un appartement et une personne de 50 ans, il m'avait dit « Anne, j'ai ma propre salle de bain ». Mais vous vous rendez compte, quoi. Je veux dire, vous avez 50 ans et là, vous vous dites. Voilà, c'est parce que c'est des gens qui ont, été dans, toujours institutionnalisés, travailler dans être dans le collectif, partager sa salle de bain, partager tout, quoi. Et là, il était. Vous vous rendez compte, j'ai ma propre salle de bain. Voilà. Donc nous, on essaie vraiment de travailler sur de mettre en place l'hébergement. C'est pareil, hein, c'est donner le choix. Alors il y a des personnes, je vous dis, qui vont être mieux dans du grand collectif, d'autres qui vont être mieux dans du petit collectif. On est dans de la colocation, on a des appartements, ils vivent à 4 à l'intérieur, d'autres et d'autres qui vont vivre dans leur propre appartement. On a des outils qui nous servent, tels que des maisons où en fait on a réhabilité des appartements à l'intérieur, des studios. En fait, ils vivent dans une même maison, mais ils ont chacun leur studio, et ça, c'est des outils exceptionnels pour eux, parce qu'en fait, ils sont pas seuls, parce que la solitude, c'est quand même l'isolement, c'est quand même aussi un gros problème par rapport pas qu'aux personnes en situation de handicap d'ailleurs, mais
non, mais qui se renforce peut-être, quand on est porteur d'un handicap.
Tout à fait. Et du coup, là, en fait, dès qu'ils ont un problème, ils vont taper chez le voisin d'en face, et en fait, ils font des repas ensemble, ils s'invitent, et ça, c'est vraiment un réel outil. Et ça leur permet de passer un pas où après, ils vont pouvoir aller dans leur propre appartement qu'ils vont louer eux-mêmes, ils vont être chez eux.
C'est fabriquer un contexte ordinaire, là où il y a eu un accompagnement à un moment de la vie nécessaire pour peut-être apprendre différemment. Je dis pas de bêtises.
Hein, c'est ça. Non, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait.
Et donc, vous disposez au sein de l'association des logements, comme j'ai envie de dire, des logements presque pédagogiques, de transition ou des. Oui. Vous les possédez, vous, l'association?
Oui. On a des. Alors, on en possède, on en loue. Il y a plusieurs.
Vous possédez cet outil, pardon, soit par location, soit par propriété.
Oui, voilà, exactement. Donc, on a. Des établissements collectifs, donc moi j'appelle collectif parce que ils peuvent ces établissements où là par exemple on a un établissement où il y a 30 chambres, donc on est vraiment bon. Après c'est des espèces d'unités en fait où ils sont 6 chambres par unité, où ils ont cuisine, salle de bain, machin truc, et après on a des appartements en fait en cœur de ville de Vernon. Et là, ils habitent en ville. Et là, c'est génial, quoi, parce qu'ils peuvent aller faire leur course tout seuls. Ils peuvent. Bon, la plupart n'ont pas de permis, quoi. Et voilà, souvent, ils n'ont pas moyen de déplacer. Donc, c'est aussi important, en fait, d'être en cœur de ville, en fait. Et nous, on est beaucoup aussi tourné vers la ville de Vernon.
Une fois qu'il y a une autonomie, il y a quand même une bouée de secours à la paire où c'est lâché dans le grand bain. Et,
non.
T'a appris à nager il y a longtemps, maintenant débrouille-toi.
Non. Il y a toujours le droit au retour. J'en parlais tout à l'heure. Toujours. Ouais. C'est-à-dire que on a vu des personnes qui voulaient aller dans un appartement tout seul et tout, et puis en fait ils se sont vite rendus compte que en fait ça leur convenait pas du tout, et en fait ils ont le droit au retour, ils repartent dans l'appartement en colocation ou ils repartent dans le grand collectif. Toujours un droit au retour. Ça c'est essentiel, que ce soit dans n'importe quel secteur.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le but du jeu, c'est d'aller dans la société ordinaire, dans le monde ordinaire. Alors, il y a le travail qui est fait par les usagers, par ce public, par les personnes en situation de handicap, mais j'ai la sensation parfois que le boulot doit être fait aussi un petit peu par le monde ordinaire.
Tout à fait.
Et alors là... on maîtrise moins.
Mais exactement, c'est vrai que la société, alors ça a bougé, ça a quand même beaucoup bougé, hein. C'est vrai que le regard sur le handicap a quand même changé, et c'est pas encore gagné, mais ça change, et c'est vrai que la société doit elle aussi faire aussi des efforts. Alors bon, par exemple l'éducation nationale a énormément bougé, là on est sur la scolarité,
l'inclusion
par la scolarité, où de plus en plus on commence à avoir des dispositifs au sein des écoles, donc que ce soit des unités d'enseignement externalisées, quoi. En fait, c'est des classes dans les écoles, ou même on va jusqu'à aujourd'hui sur avoir des écoles inclusives où on a des équipes éducateurs spécialisés et instits, quoi. Je sais plus, ça s'appelle plus des instits, mais c'est des
professeurs
des écoles,
ouais.
Voilà.
Ils se vexeront pas si on les appelle des instits.
Et donc, ça forme des binômes, en fait, et on travaille avec l'ensemble des professeurs des écoles de l'école pour adapter, en fait, les apprentissages aux enfants qu'on accueille, et ça permet de permettre à des enfants de rester dans les classes, alors qu'avant, dès que si ça posait problème, les enfants étaient directement orientés vers des établissements spécialisés.
sur l'école Jean Moulin à Évreux, il y a cette unité, je me rappelle plus du nom, donc je vais encore faire du journalisme d'approximation, mais il y a une unité comme ça sur l'école Jean Moulin, et on a eu l'occasion de les recevoir à l'antenne, et ils nous disaient qu'en fait c'est bénéfique même pour la classe entière, en fait, pour les enfants ordinaires qui accueillent dans leur classe des enfants à particularité, et bien pour eux c'est bénéfique pour l'intégralité de la classe.
Tout à fait.
Donc c'est plutôt cool, effectivement, qu'un dispositif soit favorable à tout le monde.
Tout à fait. Bah, en fait, tout devrait être... Je veux dire, quand vous rendez une ville accessible, c'est favorable à tout le monde. C'est favorable aux personnes âgées, c'est favorable aux mamans avec des poussettes, c'est favorable à, je sais pas, à des enfants, je sais pas quoi. En fait, c'est ça, en fait, qu'il faudrait... On se dit que tout ce qui peut être mis en place pour l'accessibilité, pour ça permet à tout le monde de vivre avec.
Bah, j'ai rarement vu des adaptations, et peu importe quel type de handicap, qui posaient une contrainte aux personnes ordinaires.
Pas. Exactement.
On est j'ai rarement vu ça, enfin, j'ai même jamais vu ça, finalement, que ça pose un problème aux personnes ordinaires.
On est d'accord.
Je propose que nous fassions une pause, non pas une pause musicale tout de suite. Ah si, on va faire une pause musicale et on va retrouver Antoine juste après, qui voulait nous parler d'autodétermination. Je propose une première pause musicale avec Demi-Portion et le titre Pick Up.
Et de l'autre on a le style, on l'a simplement bossé sans le bras long de Dalsim.